15 Français ont reçu le prix Nobel de littérature depuis sa création.
Et on est allé mettre tout le maître.
Il va essayer de transformer sa propre réalisation.
Essai !
Magnifique coup de pied par-dessus la défense.
Alors, comme vous devez le savoir, maintenant, effectivement, même si cette micro-émission s'appelle et s'est transformée, il ne s'agit absolument pas de rugby. On ne cherche pas à marquer 3 points, 5 points, 7 points. Un point, c'est tout. Donc, le livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui est un opuscule d'un auteur que j'aime bien, un auteur latin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Sénèque, et qui a écrit un texte qui me semble tout à fait d'actualité, parce que ça s'appelle « Éloge de l'oisiveté ». Alors l'oisiveté, pour Sénèque, ça n'est pas ne rien faire, ça n'est pas la paresse. Et d'ailleurs, cette oisiveté, ce n'était pas pour les Romains un vilain défaut, mais au contraire, le contrepoint nécessaire à l'activité, celle des affaires courantes et extraordinaires, qui dilapide le temps et exacerbe les passions. Pour autant, pas question de ne rien faire. Pour le sage, être oisif, c'est choisir la retraite, l'exil intérieur et le repli sur l'activité méditative. Préférer l'étude de la nature et la contemplation pour trouver le bonheur. Dans notre époque, où tout va trop vite, apprenons à nous débrancher, comme aurait pu dire Sénèque s'il avait été quelque peu informaticien. Alors moi, j'ai choisi ce texte pour une raison qui est assez simple, c'est que le grand débat qui existe actuellement est lié à l'intelligence artificielle qui va remettre en question le rapport entre le travail, le travail productif et le travail intellectuel. Et je pense que les réflexions que Sénèque a sur ce plan sont extrêmement intéressantes. On aurait tort de considérer le loisir comme une inactivité. Loin d'être un far niente, le loisir méditatif tel qu'il est valorisé consiste non en une activité du corps, comme celle du soldat, par exemple, en conquête, mais en une activité de l'esprit, activité qui participe à l'annexion de territoires immatériels, mais effectivement essentiels. On pense, bien sûr, en premier lieu, au questionnement philosophique de l'existence, à l'interrogation incessante sur les moyens d'accéder au bonheur, qui en est l'illustration la plus fameuse et caractéristique de la période dite hellénistique, c'est-à-dire au moment d'Alexandre le Grand. Déjà, Socrate avait montré la voie. Cet idéal de sagesse, ce modèle du philosophe, semblait n'avoir aucune activité que de battre le pavé de la cité, tantôt les yeux au ciel, y cherchant quelques réponses à son questionnement, tantôt les oreilles tendues vers les discussions de rue, à la recherche d'une opinion fausse à démontrer ou d'une vérité à accoucher. Quoi qu'il en soit, cet homme n'était jamais malheureux et sa liberté de ton comme d'esprit témoignait des bienfaits du loisir par opposition aux citoyens formatés pour tenir leur rang dans les affaires de la cité, instruits par des maîtres visant à former des individus rompus à la flatterie et aux manigances du pouvoir. Quelle leçon d'actualité pour un texte qui a été écrit il y a quelques 2000 ans. Enfin, et pour terminer mon propos, à l'opposé donc de tout ce que je viens de dire, la vie authentique est celle du loisir authentique. Pour y parvenir, un seul moyen, la retraite. Autrement dit, le retour à soi, à l'étude de la nature pour mieux se comprendre, et le monde avec soi. Il convient au sage de se retrancher dans sa citadelle. Le premier objet d'une telle retraite méditative est de faire le bilan d'une existence gaspillée. Cette méditation révèle combien les biens de la fortune nous sont étrangers, combien ils sont surévalués par les ignorants qui ratent leur vie. La vie inauthentique est chronophage. La vie authentique sera disponibilité au temps en vue de la sagesse. Telle est la grande leçon de philosophie de Sénèque qui réussit le tour de force d'opérer la synthèse du meilleur de la pensée antique au service du bonheur du genre humain.